Super. Oui.
Donc une thèse qui était intitulée « Les chemins internationaux de la mobilité sociale » qui prenait pour objet la comparaison des migrations comoriennes et togolaises en France et dans laquelle j'avais cherché à comprendre comment ces parcours migratoires s'inscrivent dans les parcours de mobilité sociale des émigrés et de leurs proches. J'avais enquêté donc à la fois en France, mais surtout dans les deux pays d'origine, Comores et Togo, par des entretiens biographiques et des observations sociologiques qui m'avaient permis de retracer d'abord les trajectoires migratoires de ces individus, de saisir les imbrications entre les histoires personnelles et les histoires familiales des enquêtés, d'observer les significations sociales qui étaient attribuées à la migration et puis de comprendre les conséquences de tout ça sur les expériences de mobilité sociale. Donc j'ai enquêté auprès de 200 personnes qui ont des profils que je cherchais, en tout cas des profils que je cherchais à diversifier. D'abord en termes de parcours migratoire, en interrogeant des non-émigrés, des émigrés et des émigrés de retour qui étaient partis à différentes périodes ou dans des pays différents, mais principalement en France, qui avaient des profils sociologiques différents en termes de sexe, d'âge, de position dans la famille, de niveau de diplôme. Et puis j'étais aussi très attentif au milieu social d'origine de ces enquêtés en essayant de brosser un peu un tableau général entre les expériences les plus précaires jusqu'aux expériences élitistes pour saisir un peu les contrastes de ces parcours. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur les classes populaires, c'est-à-dire des individus qui travaillent pas ou peu, ou dans des secteurs mal rémunérés, qui ont des conditions d'habitat dégradées ou difficiles, qui ont peu de patrimoine en tout cas, qui ont un faible accès à la scolarisation, ou alors qui ont connu des scolarisations un peu discontinues dans le secteur public, c'est-à-dire pas forcément dans les écoles les plus prestigieuses comoriennes et togolaises. Et puis en ayant en tête quand même que certains membres de ces classes populaires, du fait de leurs activités économiques et du fait de leur histoire familiale, peuvent avoir des revenus et des modes de vie qui les rapprochent des fractions modestes des catégories supérieures, notamment des employés de la fonction publique. Alors j'avais déjà expliqué, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus, dans un article de 2015, que les membres des milieux populaires sont très inégaux, d'abord dans la manière d'être socialisés à la migration, dans la manière de l'envisager, d'affronter des attentes familiales différentes, et dans la manière, inégaux aussi dans la manière de pouvoir franchir les frontières internationales, puisque pour les franchir, il faut avoir d'abord des ressources matérielles importantes, et puis il faut avoir des ressources immatérielles importantes pour diminuer les soupçons des agents consulaires et rétablir la confiance qui est nécessaire pour obtenir un visa. Mais je voudrais principalement aujourd'hui montrer en quoi la mobilité internationale participe à redessiner les contours des milieux populaires. Alors je vais m'en tenir aux grandes lignes, et pour les exemples, je vous renverrai à la version papier qui était trop longue, je m'en excuse tout de suite auprès de Yasmine Cible. Comme ça, c'est fait. Premier élément de mon propos aujourd'hui, d'abord, les parcours migratoires populaires transforment la position sociale des émigrés et de leurs proches, d'abord parce que la mobilité favorise l'accès et potentiellement l'accumulation à des ressources matérielles et immatérielles qui n'étaient pas présentes dans l'espace social de départ. Alors, le plus central, ce sont évidemment les ressources économiques, puisque la plupart des récits de vie sont centrés ou sont racontés par le prisme du travail et de l'argent. L'émigration est vécue, pour reprendre l'expression de Bourdieu, comme une stratégie d'investissement économique. Parce que aussi la géographie des départs, la hiérarchisation des destinations se fait par le prisme de ces ressources économiques, avec un dégoût pour des lieux proches géographiquement et proches économiquement, et puis une valorisation des destinations européennes, la France étant centrale dans ces destinations. Mais donc ces ressources économiques sont centrales, parce que même s'ils obtiennent des emplois mal rémunérés en France et dans des secteurs déclassés, ces émigrés enquêtés, populaires, obtiennent des salaires réguliers et éventuellement cumulés au sein du cercle familial, ce qui leur permet de dégager une faible épargne qui est envoyée ou investie dans le pays d'origine et donc qui sert à améliorer les conditions de vie des proches restés au Togo ou aux Comores. Ça reste une attente forte des familles. C'est un rôle qui est socialement attendu, qui n'est pas forcément consciemment explicité d'ailleurs à ceux qui partent. C'est plutôt un devoir moral qui est intériorisé par ces émigrés. Ceci dit, toutes ces images un peu folkloriques qu'on peut avoir sur les émigrés qui se serrent la ceinture en France, en fait, quand on enquête dans les coulisses des relations familiales dans le pays d'origine, ben, on se rend compte que ces pratiques sont pas toujours appliquées et que ces envois sont en fait assez irréguliers, assez sollicités, assez négociés au sein du cercle familial. Donc, acquérir des ressources économiques, acquérir aussi des ressources culturelles et scolaires, c'est quelque chose qui est en jeu dans ces émigrations populaires. D'abord parce que les émigrés qui ont été peu scolarisés peuvent, une fois partis, poursuivre éventuellement une scolarité ou reprendre une scolarité ou en tout cas engager des formations en France, mais surtout parce que la plupart d'entre eux investissent à terme dans l'éducation de leurs frères et sœurs cadets ou des enfants qui n'ont pas encore émigré, soit en finançant à distance leur scolarité, alors souvent une scolarité publique, et j'ai eu des enquêtés qui sont allés parfois très loin jusqu'à l'université grâce aux envois faits par leurs proches émigrés, ou parfois en les scolarisant dans des établissements privés qui sont jugés plus prestigieux et qui leur permettent de mieux acquérir les bases de la langue française. Ou alors en investissant pour faire émigrer ces cadets à leur tour, et cette fois-ci plus seulement pour travailler, mais aussi pour étudier. Alors ensuite, les mobilités internationales transforment les positions sociales des émigrés parce qu'elles transforment leurs pratiques sociales quotidiennes, en tout cas les leurs et celles de leurs proches. Et c'est assez visible dans les familles qui comptent des émigrés. Alors d'abord, je ne reviens pas trop là-dessus parce que Jennifer Bidet a déjà cité pas mal de ce genre de cas, mais les pratiques résidentielles sont transformées par la migration. Au fil des émigrations familiales, le paysage des villes d'origine se transforme, puisque dans l'histoire familiale, on acquiert des terrains, on construit des maisons, on les embellit au fil des générations. Les pratiques économiques sont transformées. Certains émigrés vont tenter de créer, avec plus ou moins de succès dans ceux que j'ai rencontrés, des entreprises familiales, que ce soit des petites épiceries, des cybercafés, des boulangeries. D'abord pour espérer s'assurer un revenu au moment où on revient en vacances, et puis surtout pour assurer un revenu plus régulier à des proches. Ensuite, les pratiques de soins sont transformées, puisque ceux qui ont des proches émigrés ont un accès plus fort à des médicaments, à des traitements réguliers, à d'éventuelles hospitalisations en cas de besoin. Ensuite, et là, ça a déjà été évoqué ce matin, les pratiques culturelles et de loisirs lors des vacances sont transformées par ces mobilités internationales. Une grande partie des enquêtés populaires que j'ai rencontrés passent ces vacances en famille, alors que ce soit de manière plus ou moins choisie ou plus ou moins subie. Mais certains d'entre eux s'autorisent à aller fréquenter des lieux qui sont réservés non pas aux touristes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aux Comores et au Togo, mais qui sont réservés aux élites socio-économiques, c'est-à-dire aller en boîte de nuit, dans les restaurants, dans les bars, dans les plages privées, dans les concerts et dans les centres culturels. Et puis, on a également des pratiques vestimentaires qui sont transformées, puisque les non-émigrés populaires jugent beaucoup la position des émigrés au regard de leur corps et considèrent beaucoup que ces émigrés sont en bonne santé, sont plus vifs, plus séduisants, mieux habillés, et considèrent donc que leur corps est un marqueur social de leur nouvelle position liée à leur passage par l'étranger. Et donc l'émigration d'un ou plusieurs membres de la famille offre un accès à des activités sociales qui sont socialement très distinctives. Et puis troisième élément de transformation des positions sociales, la mobilité spatiale des uns transforme le rapport à la mobilité des autres, puisque d'abord d'un point de vue matériel, hein, le fait qu'un pionnier dans la famille soit parti permet de prendre appui sur lui pour partir à son tour. Mais surtout, c'est ce qui m'a le plus intéressé, c'est que ce rapport à la mobilité se transforme dans les dispositions à émigrer. Si vous avez déjà des proches qui sont partis dans votre famille, ça favorise l'entretien de socialisation à la mobilité, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas encore partis entretiennent un rapport plus familier à l'étranger, forgent une appétence naturelle pour le départ, et puis vont se sentir petit à petit plus aptes à émigrer à leur tour. Et puis, ces émigrations des premiers membres de la famille, elles transforment aussi les produits de ces socialisations, c'est-à-dire les représentations qui sont associées au départ. Si les pionniers des familles populaires partaient pour s'assurer un revenu économique, les cadets ou les générations suivantes, qui ont été un peu plus longuement scolarisés, introduisent une dimension scolaire et culturelle dans leur projet de départ. Ça ne veut pas dire que le rapport populaire à l'émigration y disparaît, ça veut dire simplement que le départ n'est plus prioritairement conçu comme un projet économique et professionnel, et que ces jeunes de milieux populaires qui ont été un peu plus scolarisés parlent de la migration avec un vocabulaire différent, et avec un vocabulaire qui est notamment, qui montre un rapport un peu cosmopolite, presque cosmopolite, à la migration et à la découverte du monde. Ensuite, le rapport genré à la migration se transforme lui aussi, puisque la division initialement sexuée des intérêts migratoires, avec une opposition très forte dans ces milieux populaires entre des hommes qui partent pour travailler et des femmes qui partent pour prendre en charge les enfants, se transforme petit à petit dans les familles dispersées, notamment, c'est d'autant plus fort selon certaines configurations familiales, mais progressivement, les femmes, les sœurs cadettes, les filles émigrent elles aussi pour travailler ou pour se former. Il y a une progressive indistinction des représentations, des discours, en tout cas, liés au départ. Ce qui persiste ensuite, par contre, c'est une distinction de genre très forte dans les rôles migratoires que chacun va tenir une fois qu'il est parti, avec une opposition un peu basique entre ceux qui partent pour bâtir et celles qui partent pour prendre soin de leurs proches. Donc tous ces changements, tous ces parcours migratoires produisent de la distinction sociale entre les familles populaires, et parfois au sein même des familles populaires. Alors j'ai pas le temps de revenir sur des exemples là-dessus, mais j'ai pu observer pas mal de conflictualité familiale et de mise à distance de ces relations des émigrés et des non-émigrés au sein des familles. Alors deuxième partie, et je finirai là-dessus. Dans ma thèse, j'essaie de montrer que le franchissement des frontières internationales, il a pour but de s'affranchir des frontières sociales. Chacun essaye de transformer sa migration en vecteur d'ascension sociale, pour soi et pour les siens. Alors, d'après les organisations internationales, l'ONU et le PNUD en tête, ceux qui ont le plus à gagner de la migration, ce sont les plus pauvres. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que les appropriations de la mobilité internationale, elles sont très différentes, et qu'elles sont même très différentes au sein des catégories populaires. Et il y a donc, il me semble, trois trajectoires un peu idéales typiques et trois groupes que je vais essayer de vous décrire rapidement au sein de ces milieux populaires. Alors, premier groupe, ce sont les citoyens les plus précaires, ceux qui sont sans emploi, qui sont des agriculteurs qui ne sont pas propriétaires, qui sont des petits commerçants ou des ouvriers, dont les départs étaient possibles au tournant des indépendances parce qu'ils avaient pu être embauchés par l'armée française ou par des compagnies maritimes, mais qui aujourd'hui, du fait de leurs faibles revenus, ne peuvent pas partir et n'arrivent pas à mettre en œuvre ce départ. Alors c'est au sein de ce groupe qu'on retrouve la plus forte idéalisation de la mobilité internationale. Ce fameux mythe de l'Eldorado, en fait, il est très circonstancié socialement à ce groupe assez précaire socialement. Parce que souvent, très majoritairement, ils sont obligés de renoncer à un départ et ils sont assignés à une immobilité qui est à la fois spatiale et qui devient donc aussi potentiellement sociale. Ou alors ils tentent d'émigrer dans des destinations proches qui sont mal vues, délégitimées. Mais le succès de ces réorientations migratoires, il tient beaucoup au capital social qui est à leur disposition. Et très souvent, je me suis retrouvé face à des enquêtés qui avaient des projets migratoires qui étaient inachevés ou écourtés, faute de soutien. On a un deuxième groupe ensuite qui est composé des familles modestes avec un peu plus de ressources économiques. Les agriculteurs qui sont propriétaires, les artisans, les commerçants. Petits commerçants qui arrivent plus facilement à émigrer parce qu'ils arrivent à dégager des sommes nécessaires au départ par la pratique de l'épargne collective, par la vente de patrimoine foncier. Alors c'est d'autant plus facile, entre guillemets, s'il y a déjà une dispersion familiale précoce qui sert d'appui. Mais évidemment, toutes ces personnes, toutes ces familles sont en première ligne des suspicions des agents consulaires et sont évidemment bloquées assez souvent par les consulats. C'est dans ce groupe qu'on retrouve ceux qui ont une conception de l'émigration avant tout économique. Les attentes liées au rôle de l'émigré, c'est d'améliorer les conditions d'existence de sa famille, quelle que soit la position obtenue en France. Donc la mobilité sociale, c'est une expérience avant tout collective, plus qu'individuelle. Et c'est surtout, dans ce groupe, un processus intergénérationnel. Il s'agit d'investir dans la réussite des enfants, ici et là-bas. Voilà. Ce sont des parcours migratoires qu'on connaît finalement le mieux parce que ce sont ceux qui ont historiquement été les plus visibles et qui ont été les plus interrogés par la sociologie de l'immigration, mais dans lesquels l'immigration doit se prolonger pour faire partir d'autres membres de la famille et dans lesquels les retours sont très directement découragés ou tolérés seulement à la retraite. Et ceux qui ont réussi ou qui ont tenté en tout cas de revenir avant la retraite, avec des projets économiques, ont souvent subi des échecs financiers et qui les a obligés à repartir quand ils pouvaient le faire matériellement. Et puis, dernier groupe, dans ces milieux populaires, les fractions supérieures de ces milieux populaires, qui ont un peu plus de ressources économiques, mais qui ont surtout plus de ressources scolaires, dans les familles qui ont engagé une scolarisation des enfants, L'émigration est plus tardive, elle se fait dans le cadre d'un projet de formation, et c'est d'autant plus renforcé qu'aujourd'hui, les agents consulaires encouragent ces demandeurs de visa à être d'abord, à suivre d'abord le début de leur premier cycle universitaire dans leur pays d'origine. Mais les agents consulaires considèrent aussi que ces familles sont celles qui vont le plus facilement détourner le visa de son objectif d'étude et que ces gens vont se rester en France de manière plus longue que ce qu'ils souhaitent. Donc dans ces familles-là, le capital scolaire permet de vivre des situations sociales un peu plus hétérogènes en immigration quand la reconnaissance des diplômes parvient à se faire. Mais on a toujours cette dimension collective qui persiste dans le pays d'origine. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est que dans ces familles-là, qui ont un peu plus de ressources économiques et un peu de ressources scolaires, les réinstallations dans le pays d'origine, elles deviennent possibles, même si le retour est socialement très sélectif. Il y a quasiment deux voies d'accès à cette ascension sociale au retour. Au Togo, ce sont principalement ceux que j'ai rencontrés, des étudiants boursiers dans les années 70-80, qui ont réussi ensuite à devenir employés ou membres des professions intermédiaires en France, et qui sont ensuite revenus en tant que chefs d'entreprise ou en exerçant des professions libérales au Togo. Ce profil-là, il est beaucoup moins observable aujourd'hui, puisque le gouvernement togolais et la coopération française diminuent drastiquement le nombre de bourses. Donc ces parcours-là s'observent beaucoup moins aujourd'hui. Aux Comores, en revanche, ce parcours s'observe dans des familles qui sont très dispersées, des familles transnationales, où les enfants sont partis très jeunes et un peu plus rarement ensuite comme étudiants, qui ont connu à peu près le même parcours en France, devenir employés ou membres des professions intermédiaires, et qui ont réussi à revenir en profitant du rôle qu'avaient joué leurs aînés avant eux et des attentes qui avaient déjà été remplies par les premiers émigrés de la famille. Alors, si les deux premiers groupes, les plus précaires et les familles modestes, ont tendance à reproduire les inégalités sociales dans les deux pays d'origine, ce dernier, dans les fractions supérieures des milieux populaires, tend à recomposer ces catégories populaires, puisque au fil des générations d'émigrés, le rapport à l'émigration devient plus naturel, les ressources individuelles et collectives augmentent, les usages sociaux de la mobilité se transforment, on arrive à observer des expériences de réussite sociale dans le pays d'origine, et puis les modes de vie de ceux qui sont revenus se rapprochent progressivement des modes de vie des fractions basses des catégories supérieures, avec des activités qui sont d'habitude réservées à l'élite socio-économique. Donc, en conclusion, dans les catégories populaires comoriennes et togolaises, on retrouve des manières socialement très différencié de se déplacer avec des destinations, des temporalités, des parcours migratoires qui sont différentes et des manières socialement différenciées aussi de faire de cette mobilité internationale un mouvement dans l'espace social d'origine. Et donc la mobilité internationale, elle participe à la fois à renforcer les inégalités sociales en bas de l'échelle sociale, comme elle le fait d'ailleurs en assurant la reproduction des élites dans les deux pays d'origine, mais elle participe aussi à brouiller les frontières progressivement de ces milieux populaires. Et donc il me semble que quand on s'intéresse à la mobilité internationale, si on veut saisir à la fois la dimension sociale des inégalités spatiales et la dimension spatiale des inégalités sociales, c'est important de regarder d'abord ce qui se passe dans le pays d'origine, puisque l'immobilité sociale qui est vécue en France peut s'accompagner d'expériences de mobilité sociale dans le pays d'origine. Et puis il me semble que c'est intéressant aussi de regarder le temps long et les dynamiques intergénérationnelles, parce que c'est justement dans cette longue durée que se reconfigurent les milieux populaires par la migration. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je vais faire mon temps. On enchaîne avec Garance Clément. Sur l'articulation entre ressources locales et internationales dans les migrations des classes moyennes. Le cas des fonctionnaires lillois établis en Belgique.
Bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisatrices et organisateurs pour cette journée. Donc moi, je vais vous parler. Enfin, ma communication s'appuie sur un travail de thèse en cours. Donc je vais vous parler de l'articulation entre ressources locales et internationales dans des migrations de classes moyennes. Et ma communication donc porte sur un espace frontalier entre la France et la Belgique. Donc je suis partie du constat que dans la plupart des espaces frontaliers européens, on peut observer des comportements de mobilité particuliers qui consistent à déménager dans le pays voisin tout en conservant un ancrage professionnel dans le pays d'origine. Donc dans mon cas, des personnes qui ont grandi et vécu dans l'agglomération lilloise et qui partent habiter dans les communes frontalières de Belgique. Et c'est particulièrement marqué autour dans ce terrain. Sur ce terrain, on voit notamment dans la ville de Moucron que la part des Français s'élève en 2015 à 30% de la population totale. Et si on regarde la part des Français dans la population étrangère, elle s'élève à 96%. Donc il y a une concentration des étrangers français dans ces communes frontalières de Belgique. Et j'ai trouvé que ce phénomène était intéressant et invité à s'interroger sur les logiques de repositionnement social à l'œuvre dans des migrations intra-européennes, qui sont des migrations résidentielles et de courte distance, que j'ai appelées migrations transfrontalières. Donc contrairement aux migrations habituellement étudiées dans le cadre des classes moyennes ou supérieures, là on est dans des migrations résidentielles et non de travail, et on peut se demander donc quel est le sens social de ces comportements et comment les ressources de ces classes moyennes se recomposent dans des quartiers et des voisinages situés à l'étranger. Donc mon enquête de thèse explore le rapport entre mobilité résidentielle, migration internationale et transformation des positions sociales à partir des trajectoires de membres des classes moyennes qui sont établies dans ces villes étrangères et qui sont intéressantes parce que ça décentre un peu le regard des grandes métropoles dans lesquelles on regarde habituellement les migrations des catégories moyennes ou supérieures. Donc ce sont des phénomènes migratoires qui sont discrets, qui sont continus tout au long du XXe siècle, mais qui se sont accentués dans les années 2000. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et dans cette communication, donc, par rapport à mon enquête de thèse, je n'ai retenu que les entretiens menés auprès de salariés du secteur public, qu'ils soient fonctionnaires ou non. Donc là, le titre de ma communication était un peu abusif, mais en tout cas des travailleurs du secteur public en France. Parce que j'ai trouvé ça intéressant de regarder au sein de ce groupe précis quelles étaient les socialisations professionnelles particulières qui disposent à s'installer dans le pays voisin et aussi les avantages, les capitaux professionnels qu'ils peuvent retirer de ces positions. Donc je vais d'abord commencer par décrire les choix résidentiels de ces personnes, montrer qu'ils viennent consolider une mobilité sociale intergénérationnelle qui donc a déjà été matérialisée par l'accès aux métiers du secteur public. Et dans un deuxième temps, je vais montrer en quoi la stabilité des nouvelles positions résidentielles acquises dans le pays voisin, en Belgique, varie selon les appropriations différenciées des quartiers dans lesquels ils s'établissent. Alors, donc, je vous ai dit que les migrations transfrontalières se sont accentuées dans les années 2000 et elles sont à replacer de ce point de vue dans les effets de la crise de l'industrie du textile dans l'agglomération lilloise et dans les stratégies de tertiarisation de l'économie qui ont été mises en place à partir des années 60, puisque la formation d'un salariat intermédiaire stable dans un espace socio-résidentiel très ségrégé s'est traduite dans les décennies suivantes par le départ en Belgique de nombreux ménages attirés par le plus faible coût du logement et une fiscalité avantageuse. Donc les classes moyennes qui habitent dans l'agglomération lilloise, on peut le voir sur cette carte, se concentrent dans des espaces périurbains au sud et à l'est de l'île, toute cette partie dans les WEP et les PVEL. C'est là où se trouvent des logements individuels accessibles pour accéder à la propriété. Mais ces accessions à la propriété ne peuvent se faire qu'au prix d'un éloignement des centres d'emploi et des temps de trajet très importants qui peuvent venir jouer dans l'arbitrage résidentiel. De l'autre côté de la frontière, les marchés du logement offrent une opportunité de reclassement résidentiel à la fois précoce et rapide, facilitée par les prix, mais aussi la disponibilité des agents immobiliers et les conditions moins strictes de l'accès au crédit bancaire. Donc pour les plus jeunes, le départ en Belgique dans les années 2000 va permettre d'accéder à la propriété relativement jeune et rapidement. Pour les personnes plus âgées, cette migration va être l'occasion de réinvestir quand ils étaient déjà propriétaires et d'utiliser la plus-value pour accéder à des logements supérieurs, de standing supérieur, plus grands et plus confortables, dans des espaces résidentiels plus exclusifs dans le périurbain de ces communes belges. Donc dans tous les cas, que la migration permette d'accéder à la propriété ou d'augmenter la qualité du logement, ces étapes de la trajectoire résidentielle interviennent comme une confirmation des mobilités sociales intergénérationnelles des enquêtés, puisque là, sur les 17 personnes que j'ai prises en compte au sein de mon corpus, 11 sont issues de milieux populaires, avec au moins un de leurs parents ouvriers dans le textile dans l'agglomération lilloise ou dans les mines plus bas vers Valenciennes. Et 4 d'entre eux ont des parents ayant immigré d'Algérie ou d'Italie dans les années 70. Pour les autres, leurs parents sont des petits commerçants ou des personnes travaillant déjà dans le secteur de la fonction publique. Et donc, on est dans une continuité des trajectoires. Donc, c'est le fait que ces personnes aient accédé à des emplois dans le secteur public et en plus leur progression au sein de ce secteur leur a permis de connaître une ascension sociale intergénérationnelle. Donc on voit que là, le territoire lillois reste encore dans les années 2000 caractérisé par une structuration locale des carrières, puisque les enquêtés sont nés et ont grandi dans l'agglomération lilloise, ont accédé à des postes dans le secteur public sur ce territoire et ont connu des ascensions, des carrières ascendantes au sein de ce territoire, par des formations ou par des concours. Donc c'est le cas d'un enquêté qui s'appelle Amine et qui est passé d'un poste de technicien de la CAF à un poste de cadre au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, ou de celui d'Irène, dont j'ai mis un extrait d'entretien ici, qui explique qu'elle a commencé à travailler en usine, comme ses parents, et qu'ensuite elle a eu des diplômes d'agent des services hospitaliers, puis un diplôme d'auxiliaire de puéricultrice, et ensuite donc elle a pu avoir un diplôme d'aide-soignante. Donc elle a connu une petite mobilité ascendante au sein du secteur public. Donc on peut constater avec cet extrait et ce que je viens de dire que ces enquêtés se rapprochent en quelque sorte des petits moyens identifiés dans le tissu pavillonnaire de Gonesse et leur trajectoire s'explique par cette ascension professionnelle et aussi par des formes particulières de socialisation au sein du territoire lillois. Puisque j'ai pu repérer grâce à l'enquête que leur trajectoire s'inscrivait dans une socialisation qu'on peut qualifier de frontalière et qui les dispose à élire domicile dans le pays voisin. Donc c'est quelque chose qu'on peut repérer dans cet extrait d'entretien mené auprès de Bernard, 54 ans, qui explique que tout petit, il allait déjà fréquenter les espaces voisins de Belgique avec ses parents pour le week-end, où il allait dans un grand kiosque, que c'était un lieu de retrouvailles, un lieu de sociabilité familiale important dans sa jeunesse. Pour tous les enquêtés, on peut repérer ces pratiques festives transfrontalières qui sont relativement banalisées dans le cas des hommes, un peu moins dans le cas des femmes, et qui permettent pour les femmes, quand elles sont d'origine populaire, de s'affranchir du domicile familial et de connaître des expériences sociales et internationales dans les communes belges situées de l'autre côté de la frontière. Ça s'explique notamment par le fait que ces communes, donc Moucron, Comines, que vous avez vu sur la carte tout à l'heure, ont connu dans les années des années 60 aux années 90 un développement culturel important. Donc ce sont devenus des lieux festifs et des lieux de développement de la musique anglo-saxonne importants, avec des studios qui ont compté dans l'histoire de la musique. Et donc en passant la frontière, on pouvait se mêler à ce milieu international et se socialiser à la fois à la Belgique et à un contexte international plus large. Ensuite, ce qui est spécifique pour le coup aux agents du secteur public, c'est que dans leur milieu professionnel se développe une forme de sens commun frontalier, puisque dans leur métier et par l'importance accordée à la situation frontalière de l'agglomération lilloise dans les secteurs publics, notamment dans le cadre des collectivités territoriales, ils ont une connaissance de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et ils forment aussi au sein de ces collectivités territoriales ou des hôpitaux des réseaux de personnes habitant en Belgique, même si ce sont des réseaux informels, puisqu'ils s'identifient entre eux comme ayant connu cette forme de migration résidentielle et peuvent se donner des conseils et s'aider dans leur démarche d'ancrage de l'autre côté du pays. Donc c'est le cas notamment de Bernard, dont la trajectoire professionnelle est liée à la prise en charge de thématiques frontalières au sein de sa commune, d'origine, puis dans le cadre de la communauté urbaine, donc à une échelle plus large. Et loin d'être anecdotique, l'entremêlement de sa carrière au sein de la fonction publique territoriale et de son parcours résidentiel le conduit de Ouattrelo en France à Moucron de l'autre côté de la frontière. Et ce parcours souligne à quel point sa connaissance étendue du territoire, mais aussi l'accès à des informations relatives aux marchés locaux du logement et à la fiscalité, contribue à former une forme de capital informationnel qui peut être reconverti dans un projet résidentiel. Donc c'est par la connaissance acquise dans le milieu professionnel de toutes les opportunités résidentielles et fiscales de l'autre côté de la frontière qu'il a pu réaliser son projet résidentiel et accéder à un logement de meilleure qualité, à un reclassement résidentiel. Donc, pour résumer, dans un contexte de raréfaction des logements abordables pour les classes moyennes côté français, la structuration locale des carrières dans le secteur public, couplée à une socialisation précoce dans les communes frontalières, leur permettent de connaître une promotion résidentielle rapide de l'autre côté de la frontière. Sur le long terme, le fait d'élire domicile à l'étranger vient néanmoins mettre à l'épreuve les ressources des classes moyennes. Et la manière dont elles parviennent ou non à s'approprier leur nouvel espace de vie peut nous informer sur leur capacité différenciée à articuler ressources locales et internationales. Donc je l'ai plus ou moins évoqué déjà, mais au sein des personnes interviewées, donc on a des personnes qui travaillent dans le secteur public, mais qui sont entre elles hiérarchisées, puisqu'il y a des fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et C, et ces personnes n'élisent pas à domicile dans les mêmes quartiers. Donc j'ai distingué deux types d'espaces, les centres urbains marqués par un passé industriel et le tissu périurbain plus récent en Belgique, abritant des opérations de plus haut standing. Et on va voir que l'élection du quartier de résidence est liée à l'ancienneté de la migration, mais aussi aux différences internes au groupe d'enquêtés en termes de capital économique et de capital culturel. Donc, dans les centres urbains, d'abord, le parc de logements donc, des villes de Moucron, Menin et Comines, je vais remontrer ailleurs, donc, qui sont parmi les villes qui comptent le plus de Français, on a un parc d'anciens logements ouvriers rénovés, possédant le plus souvent un garage et un petit jardin à l'arrière. En même temps, ces centres urbains sont à proximité immédiate de zones rurales et offrent de ce point de vue un cadre de vie agréable que les interviewés décrivent comme la ville à la campagne. Ces espaces sont occupés principalement par des personnes arrivées dans les années 2000 et qui s'orientent avant les années 2000, pardon. Et qui s'orientent vers l'offre la plus immédiatement accessible. Donc à une époque où le périurbain belge n'était pas encore très développé, les premiers immigrés transfrontaliers s'orientent vers ces centres urbains très accessibles en termes de prix et avec un marché peu tendu et peu demandé. Donc ce sont les quartiers les plus accessibles pour les primo-accédants jeunes et moins dotés économiquement. Et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est ce type d'habitat qui est proposé dans les quartiers centraux, donc de l'habitat ouvrier rénové. Dans d'autres espaces à Tournai, on trouve une architecture plus bourgeoise qui imite ou reproduit l'architecture flamande. Ces quartiers sont investis par des agents du secteur public mieux dotés culturellement et qui recherchent ce type d'espace pour leur caractère attractif en termes d'offres culturelles et la qualité des espaces urbains avec plus de commerces de proximité et des logements de plus haut standing. Donc si le cadre matériel du logement et du quartier, la sécurité et la propreté sont des éléments qui sont valorisés par les enquêtés qui investissent ces centres urbains, les personnes signalent aussi leur faible participation à la vie locale et leur faible appropriation du quartier. Donc ils insistent sur leur repli sur la sphère résidentielle au sein de ces quartiers. Et j'ai essayé de montrer que ça s'explique par le fait que même si dans les années 2000, ces personnes arrivant dans les quartiers centraux sont mieux dotées culturellement et économiquement que les habitants de ces communes qui sont d'anciennes familles ouvrières populaires, on n'observe pas dans ces quartiers de forme de gentrification. Il n'y a pas de transformation des espaces, pas d'appropriation de la vie associative par les immigrés transfrontaliers. Au contraire, on observe des formes de résistance populaire qui sont liées à la fois aux traditions locales belges d'organisation de moments festifs qui tournent autour d'une sorte de folklore qui est entretenu par la ville et par les habitants. Donc par exemple, des activités de rue comme le marché aux fleurs, la fête des hurlus qui sont des personnages folkloriques locaux ou les ducasses qui sont l'équivalent des kermesses françaises. Et une autre forme d'occupation populaire de l'espace liée à la fréquentation dans les centres-villes de tabac et de débits de boissons qui sont ouverts toute la nuit et qui sont situés vraiment à la limite de la frontière franco-belge et qui sont fréquentés principalement par des personnes habitant dans les quartiers populaires de Roubaix et Waterloo en France, qui sont essentiellement des personnes masculines et racisées et qui sont pointées par la presse locale et par les élus locaux comme étant responsable d'un désordre urbain et de problèmes de voisinage dans les quartiers les plus immédiatement frontaliers. Donc dans ce contexte, on voit que les migrations des enquêtés en Belgique, si elles permettent de s'éloigner des contraintes résidentielles côté français, se traduisent aussi par une expérience quotidienne de la proximité spatiale avec des couches populaires à la fois françaises et wallonnes dans les communes frontalières. Donc il existe un décalage entre le capital résidentiel acquis par ces agents du public en déménageant de l'autre côté de la frontière et l'absence de profit d'espace lié à leur installation dans ces quartiers centraux. Donc je vais accélérer. Au sein de ces personnes habitant dans les espaces centraux, il y a quand même des distinctions entre les personnes habitant, par exemple, le centre de Tournai et qui peuvent profiter de la localisation dans un centre culturel important et valorisé, notamment auprès de leur entourage en France, et qui décident d'utiliser leur sphère résidentielle pour inviter leurs amis et donc retirer un certain prestige résidentiel de leur localisation en Belgique. On trouve aussi le cas de fonctionnaires très dotés qui sont des cadres et qui utilisent leur position de résident étranger, non pas pour s'approprier le quartier et transformer l'espace résidentiel, mais pour acquérir une nouvelle forme de capital informationnel qui est celle de comment se déroule la vie d'un résident étranger en Belgique et qui envisage, c'est notamment le cas d'un des agents, qui envisage d'écrire un livre sur l'immigration française en Belgique et tous ses ressorts administratifs et fiscaux. Mais pour les moins dotés, l'absence de ressources compensatoires à la migration, le fait de ne pas pouvoir s'approprier l'espace local et la position de résident étranger viennent relativiser le succès de la migration. Donc c'est notamment le cas ici de Samy, qui explique que sa position de résident étranger relativise les avantages de sa position du logement nouvellement acquis, puisqu'il doit en permanence se justifier auprès de la CAF sa position professionnelle, fournir des documents, aller au sein de l'administration régulièrement, et donc sa position de résident étranger devient humiliante et lui fait envisager le retour en France, puisque finalement le fait d'avoir un meilleur logement en Belgique n'est pas si avantageux en termes en termes financiers et administratifs. Dans d'autres espaces résidentiels maintenant, donc dans les quartiers périurbains, l'arrivée des salariés permet une plus forte appropriation des espaces. Ces espaces s'inscrivent dans le développement d'une offre de logement explicitement dédiée à un public de classe moyenne ou de classe supérieure et explicitement dédiée à un public français. Notamment parce que les prix sont trop élevés pour la population belge locale et parce que ce quartier est situé le long d'une route qui mène directement à la France. Et puis l'analyse des annonces immobilières montre aussi qu'il y a un appel à la population française dans ces quartiers. Donc quand les personnes enquêtées accèdent à la propriété dans ces espaces, ils acquièrent des maisons mitoyennes de plus haut standing, qui imite parfois l'architecture flamande, comme on le voit sur cette photo. Et à la différence des ménages du centre, cette étape est envisagée comme l'aboutissement de leur trajectoire résidentielle. Et dans ces quartiers, on va noter une bien plus forte appropriation de l'espace local. L'homogénéité sociale et le fait qu'il n'y ait pas d'occupation préalable de l'espace permet aux habitants de se constituer comme des notables locaux, notamment par des alliances contractées avec la mairie et les services de police. Donc dans ce quartier, il y a eu la mise en place d'un plan local de prévention qui permet aux habitants d'organiser une surveillance du voisinage et de refouler du quartier donc des populations jugées non désirables, soit parce qu'elles roulent trop vite, soit parce qu'elles ne correspondent pas au niveau social du quartier. Et ce réseau et cette appropriation locale du quartier s'est traduit dans un contexte international par d'autres formes d'alliances avec des associations de résidents français à l'étranger qui ont permis à des habitants de ce quartier de remonter jusqu'aux députés des Français de l'étranger à Bruxelles et d'accéder à des formes de réseaux d'étrangers beaucoup plus élitistes, notamment les amitiés du franco-belge du Courtrai, qui regroupent des immigrés beaucoup plus anciens qui n'habitent pas les quartiers populaires de Moucron, qui sont d'anciens chefs d'entreprise retraités qui ont émigré en Belgique pour des raisons fiscales. Et donc il y a des alliances à la fois locales et internationales qui se constituent par l'arrivée dans ce quartier. Bon, je l'ai dit très vite. En tout cas, donc, ce que j'ai cherché à montrer dans cette communication, c'est d'une part le succès variable de la conversion des capitaux des classes moyennes dans le contexte franco-belge. On voit que les strates les plus dotées économiquement et culturellement restent les plus à l'aise dans la circulation internationale. Pour autant, les hiérarchies sociales ne sont pas parfaitement transposables d'un État à l'autre, puisque dans le cas d'espaces résidentiels récents ou neufs comme celui-ci, les possibilités de conversion du capital professionnel peuvent amener à exercer une position sociale plus valorisée dans le quartier et à s'insérer dans des réseaux internationaux. Il est aussi intéressant d'observer que l'existence de très forts différentiels frontaliers entre un marché résidentiel côté français et un marché résidentiel côté belge organise des trajectoires résidentielles originales dans lesquelles des promotions résidentielles se déroulent dans des centres urbains populaires sans qu'il y ait réappropriation de l'espace ou transformation du bâti ou de l'occupation sociale des quartiers. Puisque c'est uniquement le pouvoir d'achat plus important des Français dans ces espaces qui fonde leur arrivée et leur position résidentielle. Donc à l'image de ce que montre Adrienne Favel pour d'autres strates des classes moyennes, les barrières administratives, fiscales et culturelles sont des processus de renationalisation des positions à l'étranger et qui remettent en question les ascensions sociales et résidentielles. Merci.
La dernière communication est celle d'Amélie Grisol, la lutte des mères entre deux lieux de la famille, Sénégal, Italie.
Désolée pour le temps.
Alors bonjour à toutes et à tous. Ouais, je pense que... donc ce que je vais vous présenter représente une petite partie de ma thèse qui est en cours, qui porte sur des familles sénégalaises transnationales. J'ai travaillé avec notamment des couples qui vivent en Italie ou aux États-Unis, donc aujourd'hui il va être question de l'Italie. Des couples qui ont vu naître certains de leurs enfants en migration, donc des enfants qu'on dit de la seconde génération. Et ces enfants ont été à un moment donné envoyés vivre à Dakar, donc loin de leurs parents, pour un certain nombre d'années. Et dans la thèse, je parle de mise à l'abri et de relocalisation des enfants vers un espace social et un lieu de la famille qui est connu, valorisé et maîtrisé par leurs parents. Donc je ne sais pas si on m'entend bien, ce genre. Ça va. D'accord. Donc du coup, je travaille sur les stratégies de reproduction et de mobilité sociale, notamment des mères, entre deux espaces nationaux. Dans cette communication, je vais chercher à mettre en regard plus particulièrement les trajectoires de deux mères et de leurs enfants entre l'Italie et le Sénégal, pour tenter de montrer que finalement, que ce soit le déclencheur ou la signification du départ des enfants vers le Sénégal, peuvent se distinguer fortement selon les ressources scolaires et économiques de départ, selon également la pente de la trajectoire familiale de chacune, et selon aussi leur représentation de leur famille, leur représentation de ce que c'est que la famille idéale. Donc je vais me situer avec un point de vue très ancré dans le contexte d'émigration, donc au Sénégal. J'ai effectué un terrain ethnographique de 12 mois entre 2013 et 2015, avec une entrée par les écoles privées élémentaires, où j'ai cherché à rencontrer, par le biais des équipes pédagogiques, du point de vue des Sénégal, du coup, des enfants nés à l'extérieur, donc du point de vue des pays de migration, des enfants de seconde génération, mais au Sénégal, des enfants nés à l'extérieur, qui avaient tous moins de 10 ans, et voire des très jeunes enfants, également entre de quelques mois à 2 ans. Donc j'ai accédé aux familles, les 3/4 du terrain s'est déroulé au Sénégal et ensuite j'ai effectué des courts séjours en Italie aux États-Unis dans le but de compléter les monographies de famille en rencontrant les membres émigrés des familles transnationales. Donc le terrain s'est déroulé majoritairement à Yoff, qui est un quartier de Dakar, un quartier populaire de la proche banlieue. Et parmi ce quartier populaire, les enquêtés de la recherche étaient plutôt des enquêtés dont les pères avaient connu la période prospère du premier gouvernement socialiste, avec des postes de fonctionnaires ou assimilés, d'employés ou de petits cadres, mais qui ont par la suite perçu des retraites très faibles. Donc à la génération des enquêtés, donc les parents de cette recherche. Au Sénégal, sous l'effet des ajustements structurels des années 80, il y a eu une forte diminution des emplois publics, qui était le premier secteur d'emploi contractuel des diplômés. Et des migrations rurales urbaines qui ont fait que Dakar aujourd'hui compte un quart de la population sénégalaise, environ 3,5 millions d'habitants. Et les migrations internationales à partir de Dakar se sont donc déclenchées plutôt à partir des années 90. Sur ce terrain, les hommes sont partis les premiers. Ils ont tous des niveaux scolaires majoritairement secondaires, donc collège-lycée, avec quelques niveaux scolaires supérieurs. Et ils font donc partie des Dakarois qui n'ont pas trouvé à s'embaucher à leur niveau de diplôme à Dakar et qui sont partis entre les années 2000 et 2010. Donc ils sont tous âgés de 35 à 55 ans et ils sont partis par le biais d'opportunités, de contacts qui leur ont permis d'obtenir des passeports et des visas. Donc aucun des enquêtés de ce terrain n'est parti sur une embarcation de fortune ou en pirogue. Ça les a pas empêchés d'être éventuellement irréguliers dans un premier temps, mais comme il y a eu beaucoup de vagues de régularisation assez massives en Italie depuis les années 2000, ils ont tous obtenu des papiers à un moment donné ou à un autre. Donc les hommes que j'ai rencontrés en Italie expliquaient qu'à leur arrivée, ils avaient été perçus comme des immigrés, subsahariens, noirs, musulmans et célibataires, vivant à plusieurs dans des petits espaces d'habitation, et que, en tant que Dakarois, urbain, venant de familles propriétaires, avec un niveau scolaire qui, on dit au Sénégal, les Kujang école, ceux qui ont appris à l'école, donc ils font partie d'un milieu éduqué. Souvent, ils sont mariés, ils ont des enfants déjà au Sénégal. Et donc, du coup, ils vivent assez difficilement ce déclassement social et symbolique, accompagné également de premières expériences des discriminations ethno-raciales. Donc, par leurs études francophones à Dakar, ils ne se destinaient pas à des emplois manuels. Et en Italie, finalement, ils se trouvent mélangés et confondus avec d'autres types de Sénégalais qui viennent plutôt de milieux ruraux. Il y a une littérature assez abondante sur les migrations mourides des milieux ruraux sénégalais, donc des gens qui viennent de la région de Touba et qu'on appelle au Sénégal les Modou-Modou. Les Sénégalais de ce terrain, en faisant venir leurs femmes par la procédure de regroupement familial, ils expliquent qu'ils actualisent leur statut de responsable de famille afin de revaloriser leur image sociale en Italie, d'être plus respectables. Et ainsi, ils tentent de diminuer un peu le décalage entre leur position sociale au Sénégal et leur position sociale en Italie. Donc, une fois que les femmes sont arrivées en Italie, à un moment donné, il y a des enfants qui naissent sur le territoire italien. Et à un moment donné ou à un autre, on envisage le départ de ces enfants nés en Italie vers le Sénégal, que moi, j'ai analysé comme une lutte contre le déclassement. Donc il y a plusieurs niveaux d'arguments et de déclencheurs au départ des enfants qui ont été avancés par les enquêtés. Le premier argument assez massif était l'idée de faire face à la crise économique, notamment la crise de 2008. Élever les enfants en Italie représente un coût assez élevé en termes de logement, ce que ça veut dire louer un logement plus grand, en termes de factures. Les pères ont beaucoup évoqué aussi les frais de cantine. Et puis le chômage en Italie, qui est passé de 7% en 2007 à 12% en 2016 et qui est encore un peu plus élevé pour les personnes nées à l'étranger. Donc il faut savoir aussi que l'envoi des enfants à Dakar représente souvent pour les enquêtés un mode de garde idéal pour les enfants en bas âge, c'est-à-dire être gardé par la grand-mère et les tantes maternelles des enfants. Bon, il y a beaucoup d'études sur ce qu'on a appelé les enfants confiés en Afrique de l'Ouest. C'est pas forcément un terme idéal, mais donc c'est une pratique qui est extrêmement banale et très très courante de faire élever les enfants par d'autres membres de la parenté. Le deuxième argument, ou plutôt déclencheur, qui était avancé, c'était l'évitement des discriminations raciales. Surtout quand finalement le départ avait été un peu provoqué par la confrontation avec l'institution scolaire au moment où les enfants arrivaient à l'école maternelle et où les parents trouvaient qu'ils s'adaptaient pas bien, qu'ils avaient pas d'amis, qu'ils étaient un peu seuls, voire qu'ils subissaient des insultes ou qu'il y avait des conflits à l'école. Et donc, ils expliquent que leur, y a un père qui m'explique que ces enfants ne seront jamais considérés comme des Italiens. Donc là, on voit bien que la considération pour ces petites classes moyennes à Dakar, c'est assez crucial. Et donc, en grandissant, en envoyant les enfants grandir à Dakar, c'est aussi pour les parents une façon de leur transmettre leur statut social à Dakar et de leur permettre d'incorporer ce statut social. Un troisième élément qui a été très présent, c'est l'idée de l'apprentissage de la langue française. Donc tout le système d'enseignement public au Sénégal et privé d'ailleurs majoritairement est en français. Et les parents perçoivent le français comme une ressource internationale. Ils expliquent bien que, étant donné qu'il y a des difficultés avec l'emploi en Italie, l'idée d'être obligé à un moment donné de rentrer au Sénégal fait qu'on envoie un peu les enfants devant. Et donc, s'ils veulent des postes plus tard au Sénégal, les enfants doivent être éduqués en français. Et ça leur permettra aussi de migrer par la suite en Belgique, en France, en Suisse, au Canada. Au contraire, la langue italienne est souvent qualifiée d'inutile par les parents. Il y a une mère qui m'a dit « L'italien, c'est Malpensa est terminé ». Donc Malpensa, c'est l'aéroport de Milan, pour signifier que au-delà du territoire italien, la langue italienne n'était pas intéressante pour l'avenir des enfants. Et donc dans la thèse, je parle aussi de contournement international de la carte scolaire, puisque tous ces enfants étaient scolarisés dans des écoles privées d'un bon niveau à Dakar, et ils évitent aussi à leurs enfants, en tout cas temporairement, les écoles publiques des quartiers populaires où ils résident en Italie. Donc j'en viens maintenant aux stratégies résidentielles qui ont été déployées par deux maires dans cet espace familial qui est devenu transnational. Et juste du point de vue des enquêtés, ce qui est étonnant, c'est pas tant que les enfants partent vivre à Dakar, mais plutôt que les mères restent en Italie lorsqu'elles ne travaillent pas. Ça, c'est une situation qui est assez critiquée. Confier ses enfants, les faire garder par la famille quand on travaille, c'est complètement normal. Donc je vais commencer avec une mère que j'ai appelée Sorna Samb, qui a 36 ans au moment où je la rencontre en 2014, qui a un niveau scolaire CM1 et qui est partie en Italie en 2010 avec sa fille aînée, qui avait quelques années. Et elle explique qu'à ce moment-là, elle souhaitait à tout prix quitter l'univers inconfortable de la maison de sa belle famille, où elle était cantonnée à Dakar depuis que son mari était parti, où elle était soumise à des multiples corvées domestiques et où elle subissait aussi beaucoup de reproches de la part de sa belle-mère et ses belles-sœurs. Donc elle explique le désir d'avoir une cuisine à elle, d'être une maîtresse de maison, et finalement, de l'obligation sociale à la virilocalité à Dakar, elle active la néolocalité en rejoignant son mari en Italie. Son mari, par ailleurs, dit que lui, il a évité beaucoup de conflits à distance par téléphone avec sa mère et ses sœurs. Donc en 2010, Sorna arrive à Milan, elle est enceinte et elle met au monde un petit garçon. Et deux ans plus tard, en 2012, le couple part avec les deux enfants pour les accompagner à Dakar, pour les laisser là-bas, avec l'idée que Sorna aura du temps pour apprendre l'italien de façon plus rapide et plus approfondie et pour mettre en place un projet d'insertion professionnelle. Et moi, lorsque je la rencontre en 2014, puis en 2015, elle n'a encore pas trouvé de travail dans le secteur salarié en Italie. Elle a essayé du petit commerce, mais avec quelques difficultés. Donc, Sorna a rêvé de quitter la maison familiale de son mari à Yoff. Mais en 2014, elle m'explique que la solitude lui pèse beaucoup, que les enfants lui manquent. Et pour autant, Sorna n'entrevoit pas du tout la perspective de rentrer au Sénégal. En fait, le père de Sorna est un monsieur assez âgé qui est à la retraite, qui lui est allé à l'école française. Il était fonctionnaire, mais il a une retraite extrêmement petite. Les aînés de Sorna sont des sœurs mariées, donc qui sont sorties de la maison. Et ses petits frères ont dû arrêter l'école faute de financement. Donc la pente de la trajectoire familiale est relativement descendante. Donc Sorna souhaite que sa maisonnée relève la tête. Elle rêve que son petit frère puisse retourner au lycée. Sur du long terme, que son père puisse partir en pèlerinage à la Mecque. Et elle désire prendre son tour dans la prise en charge de la maisonnée familiale et devenir par là une aînée respectée, etc. Les sœurs de son mari à Dakar par téléphone reprochent souvent à Sorna, lui demandent souvent si elle a trouvé du travail. Sorna explique que c'est une façon de lui reprocher de profiter de l'argent de son mari, de coûter de l'argent à son mari inutilement. Et parce que voilà, là, ce qui n'est pas considéré du tout comme normal, c'est qu'elle reste en Italie sans s'occuper de ses enfants. Donc elle coûte de l'argent et elle n'est pas capable non plus ni d'aider ses parents ni de financer ses enfants. Donc finalement, la stratégie de Sorna s'est avérée payante parce que Sorna a trouvé du travail en 2016. Elle a été embauchée en tant que femme de ménage dans la coopérative où travaille son mari en tant que cariste. Donc 6 années après son arrivée en Italie. Sorna appartient à une maisonnée qui comprend ses enfants, ses parents et même certains de ses frères et sœurs. Alors j'utilise maisonnée contre la catégorie de famille, qui est une catégorie des enquêtés qui est beaucoup trop large. Ils disaient Yoff, c'est toute la même famille, ce qui est pas tout à fait faux au niveau des liens de parenté, mais ce qui est pas pratique pour l'analyse. Donc la maisonnée, c'est défini comme une unité économique et affective avec des membres qui travaillent ensemble, qui partagent leurs ressources pour une cause commune, qui serait ici la mobilité sociale et l'éducation des enfants. Donc Sorna a attiré, en envoyant ses enfants à Dakar, Sorna a attiré ses enfants ainsi que les ressources de son mari vers sa propre maisonnée. Son mari finance les frais de scolarité, il envoie aussi de l'argent aux parents de Sorna, tant qu'elle ne travaille pas. Elle a su ainsi, en quelque sorte, optimiser les avantages de 2 territoires de sa maisonnée transnationale, donc chez ses parents à Yoff et chez son mari en Italie. Alors maintenant, je vais vous présenter le cas d'une deuxième mère qui s'appelle, que j'ai appelée Mbaïtou Diagne, et qui est un cas plus rare sur ce terrain, parce que Mbaïtou, elle vient d'une famille, d'un milieu social beaucoup plus élevé. Son père, il a un poste de cadre administratif à l'université, et surtout, il est encore en activité. Mbaïtou, elle est née en 1977. Elle a étudié la géographie durant 2 années à l'UCAD, l'Université publique de Dakar. Elle a ensuite suivi une formation de 2 années en comptabilité-gestion dans une école privée financée par son père. Son mari, de son côté, était maçon à Dakar. Il est parti en Italie en 2002 et revenu pour l'épouser en 2003. Et Mbaïtou fait partie des femmes diplômées qui a réussi à ne pas partir vivre chez sa belle famille. Donc tant qu'elle ne part pas en Italie, elle reste chez ses parents. En 2006, elle arrive en Italie avec une fille aînée qui est née entre-temps. Un petit garçon voit le jour en 2007, puis une troisième enfant, donc une fille, en 2009. Et ce qui fait que ce soit au Sénégal ou en Italie, de 2003 à 2010, le mari de Mbaïtou prend en charge toute sa petite famille. Il occupe un poste de maçon à Gênes. Et Mbaïtou se rappelle, à l'époque, il était bien, sous-entendu financièrement. Puis, à un moment donné, précisément en 2010, son mari perd son emploi en Italie. À ce moment-là, ils sont tous rentrés à Dakar, retour annoncé pour des congés. Son mari lui avait dit « tu vas te reposer ». Seulement, Mbaïtou explique qu'on nous sommes arrivés un 8 janvier et le 15 janvier, il s'est marié avec une seconde femme. Donc là, il y a toute une histoire de conflit à Dakar où son mari avait tenté de lui confisquer son passeport suite à diverses tractations, l'intervention d'intermédiaires. Mbaïtou récupère son passeport, mais donc elle explique ce moment comme un moment de rupture dans sa trajectoire. Et son mari repart en 2010 en la laissant elle et ses enfants à Dakar. Il retrouve du travail dans la restauration, mais de 2010 à 2012, Mbaïtou vit contre son gré avec ses enfants chez ses parents. Le couple est en conflit à distance, son mari n'envoie plus que l'argent de la scolarité des enfants. Et Mbaïtou estime que c'est pas normal. Elle avait honte d'être mariée et pourtant entretenue par son père. Elle me dit « on mangeait comme ça, sans rien donner ». Alors là, je vais juste préciser que au Sénégal, les budgets des époux sont totalement séparés, que les normes musulmanes veulent que les hommes doivent prendre en charge toutes les dépenses de leur foyer, de leurs femmes, de leurs enfants. C'est un enjeu assez énorme dans les relations de couple. Et même si dans la pratique, les femmes aident, entre guillemets, voire participent énormément au budget des maisonnées, cette norme partagée rend assez paradoxalement les femmes relativement libres de dépenser leur propre argent comme elles le souhaitent. Elles n'ont pas d'obligation directe sur leur propre salaire. Donc Mbaïtou explique « comme j'avais des diplômes, j'ai cherché du travail à Dakar ». Elle n'a pas réussi à trouver un travail à Dakar, donc 2 ans dans cette situation. En 2012, elle dit « J'ai réfléchi, je vais repartir, sinon il va me délaisser, car il ne voulait pas que je revienne en Italie ». Baïtou explique que, en repartant de son propre chef en Italie, elle cherchait tout d'abord à travailler. Son mari avait pris une seconde épouse, elle voulait assurer l'avenir de ses enfants. Deuxièmement, elle voulait être auprès de son mari pour conserver sa place de première épouse. Et troisièmement, son permis de séjour allait expirer. Donc finalement, pour Mbaïtou, c'est à ce moment-là qu'elle a dû laisser ses enfants sans elle à Dakar. Et quand elle est arrivée en Italie, elle a trouvé du travail assez rapidement dans la restauration. Et Mbaïtou répète que jamais elle avait pensé qu'un jour elle se retrouverait à laisser ses enfants vivre loin sans elle. Donc en 2014, Mbaïtou explique qu'elle prend en charge totalement ses enfants et aussi l'entretien de son mari en Italie, alors que lui, pendant ce temps-là, finance sa seconde femme au Sénégal. Donc elle exprime une répartition injuste des rôles de l'économie domestique. Je vais aller un peu plus vite. On voit que le capital scolaire de Mbaïtou lui a permis de trouver du travail rapidement en Italie. Au moment où elle a cherché à travailler, elle l'a trouvé tout de suite. Elle cherche à transmettre des ressources scolaires à ses enfants. Elle a un suivi très attentif de leur scolarité à distance. Elle leur paye des écoles privées, des répétiteurs, etc. Elle cherche aussi à leur transmettre la ressource migratoire, parce que si elle reste auprès de son mari, c'est aussi parce qu'elle ne veut pas que son mari divorce, parce qu'elle veut garder sa place aussi dans les papiers italiens et l'accès à la nationalité à un moment donné. Et pour terminer, ce qui me semblait être intéressant dans ces portraits très contrastés de Sorna Mbaïtou, c'est que Mbaïtou, elle porte une vision de l'idéal familial qui est conjugal, nucléaire, monogame. Elle souhaitait également que son mari la prenne totalement en charge. Elle ne se sentait pas particulièrement d'obligation envers ses parents, en tout cas à ce moment-là, puisque son père était toujours en activité. Elle présente l'envoi des enfants, le fait que ses enfants soient restés à Dakar loin d'elle, comme une rupture, un choix douloureux face à un accident de vie qui pour elle est inattendu et pas tellement anticipé. De ce fait, la maisonnée de ses parents lui permet quand même de rebondir, lui sert d'assurance quand sa maisonnée conjugale se fissure. Alors que dans le cas de Sorna, l'envoi des enfants à Yoff a plutôt lieu dans une continuité territoriale de la maisonnée transnationale entre l'Italie et le Sénégal, qui inclut ses parents, sa fratrie, et maisonnée à laquelle elle n'a jamais cessé d'appartenir au moment de son mariage. Donc, pour conclure, les cas de Sorna Mbaïtou mettent en évidence aussi que mobilité sociale et classements sociaux entre deux espaces nationaux sont liés par des dynamiques migratoires qui peuvent paraître similaires, comme envoyer les enfants à Dakar, mais qui sont sous-tendus par des logiques et des idéaux différents. Aussi, classements sociaux entre deux espaces nationaux, ça veut dire une homogénéisation de la position sociale des Sénégalais issus de quartiers populaires en Italie par rapport au fait qu'ils viennent de familles de milieux sociaux très différents à Yoff. Et puis aussi des objectifs de court terme, comme pour Sorna quitter la belle famille, pour Mbaïtou être mère au foyer en Italie, et des objectifs de long terme, pour Sorna devenir financeur de sa maisonnée parentale, pour Mbaïtou assurer la réussite de scolaire de ses enfants à tout prix. Donc là, on voit des mères sénégalaises de ce terrain, les mères sénégalaises de ce terrain, qui luttent pour établir des vies valables et respectables, avec des ressources scolaires, sociales, économiques de départ très variées, et également entre deux espaces nationaux qui présentent chacun des avantages et des inconvénients. Je vous remercie.
Merci. Donc je passe la parole à Yasmine Ciblot pour discuter, poser des questions. Et ensuite, dans la foulée, on prendra vos questions pour que les personnes puissent répondre le plus synthétiquement possible.
Merci. Je vais tout d'abord souligner l'intérêt de cette session. Il me semble qu'elle avait une grande cohérence, même si les migrations et qui sont abordées se situent dans des contextes très différents, à des échelles très différentes. Mais il me semble qu'elle présente à bien des égards une cohérence de thématique et d'approche. Et le fait d'avoir bénéficié de la conférence introductive de Jennifer Bidet préalablement souligne d'autant plus cette cohérence, puisqu'on voit d'emblée comment, à travers vos différentes contributions, vous mettez en œuvre les différents raisonnements qui ont été présentés ce matin pour réfléchir à l'articulation entre migration et mobilité sociale. On voit à la fois des opérations de comparaison, la prise en compte d'échelles différentes et l'intérêt de se centrer sur ces situations qui ne sont pas individuelles mais qui sont des situations collectives de groupe, qui se situent à l'intersection entre plusieurs espaces à la fois locaux, nationaux qui vont à la fois de manière subjective et objective pouvoir être situés et se situer à ces différentes échelles et dans ces différents espaces. Donc je trouve que l'enchaînement de cette conférence et de cette session est vraiment passionnant, et on voit bien tout de suite comment, à travers l'étude de discours, de pratiques concrètes, de trajectoires individuelles et collectives, on peut mettre en œuvre ces différents modes de raisonnement comparatif ou transnationaux. Alors, pour ma part, il me semble qu'il y a deux entrées qui font un peu la spécificité aussi de vos présentations. En tout cas, c'est ce qui m'a particulièrement intéressée à la lecture et puis en vous écoutant. C'est que vos différentes présentations, elles mettent vraiment en avant la prépondérance du pays d'émigration et du groupe d'appartenance dans le pays d'origine comme espace et comme groupe de référence, et la prégnance de ce groupe à la fois sociale et nationale d'origine dans le positionnement social, même si on voit bien sûr tout un ensemble de repositionnements et de reconfigurations. Et je trouve ça intéressant, alors c'est pas absolument original, mais malgré tout, je trouve ça intéressant de le souligner, puisque la sociologie de l'immigration, elle prend souvent comme point de départ, comme point de référence la sociologie, les caractéristiques de la société d'installation, et donc malgré tout, elle met en œuvre très souvent un ethnocentrisme plus ou moins contrôlé dans ces raisonnements-là. Et là, même si bien sûr la société d'installation est présente dans les positionnements subjectif et objectif, on voit la prégnance et la prégnance dans le temps, hein, y compris sur la longue durée, des positions occupées dans la société d'origine. Et je trouve que c'est quelque chose qui relie vos différentes interventions. L'autre point qui a soulevé mon attention, alors c'est un intérêt personnel, mais c'est aussi parce que c'est présent dans vos interventions à des degrés divers, c'est que elle donne à voir ce qui fait la prégnance de ces appartenances nationales. Un des éléments de la prégnance de ces appartenances nationales et du poids du caractère national des espaces sociaux, c'est évidemment la manière dont ils sont structurés par des États, et on le retrouve dans vos interventions, là encore à des degrés divers, mais à travers le rôle de différentes administrations et institutions publiques ou politiques publiques dans les espaces de départ et les espaces d'installation, qui vont jouer un rôle très important dans les positionnements et les identifications sociales. Donc voilà un petit peu pour l'introduction générale. J'ai préféré privilégier des questions à chacune et chacun d'entre vous, parce que chaque présentation est assez riche, et donc sans faire des très longs préalables, je vais donc en venir à des discussions un peu plus ciblées sur chaque présentation, dans l'ordre dans lequel vous les avez présentées, en essayant de garder en tête ces deux fils qui me semblent vraiment intéressants pour l'ensemble de la séance. Donc concernant la première présentation de Simeng Wang, on voit là particulièrement bien l'importance du caractère prépondérant de la société de départ ou d'origine dans les formes de positionnement social de ces migrants, qui se comparent, alors vous utilisez le terme de pair, hein, à leur père, soit resté en Chine, soit retourné en Chine. Donc vous n'avez pas eu le temps de bien développer des exemples, mais on le voit bien dans le texte écrit, et vous pourrez peut-être revenir là-dessus. Donc c'est vraiment très intéressant l'ensemble des éléments de comparaison, enfin des personnes qui constituent ce groupe de pairs de référence auxquels se comparent vos enquêtés. Et vous mettez l'accent sur un double sentiment de déclassement, à la fois en termes de moindres ressources économiques, mais aussi de dévalorisation du capital culturel qui était souvent à l'origine, de la dévalorisation en Chine, hein, alors que la motivation de la migration était souvent liée à une valorisation de ce capital culturel. Alors j'aurais deux questions qui sont des questions de recherche. Donc là, votre travail pour l'instant se centre surtout sur ces positionnements subjectifs. Est-ce que ça serait envisageable et comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre d'objectiver les trajectoires de ces personnes et à qui est-ce qu'on pourrait les comparer? Du coup, c'est pour vous amener à préciser cette notion de paire de référence dans le pays d'origine, donc là en l'occurrence la Chine. Ça paraît en fait extrêmement complexe à faire, mais est-ce que vous avez essayé de le faire? Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? On a affaire à des gens qui occupent des positions très variées en France, mais qui ont l'air d'avoir pour certains d'entre eux des positions au départ plus homogènes. Alors il y a des pistes qui apparaissent dans votre présentation, par exemple comparé à l'ensemble d'une promotion scolaire ou universitaire, ou comparer des fratries. Après, je ne sais pas s'il y aurait moyen de faire des objectivations plus larges avec des données quantitatives. Et donc, est-ce que vous avez essayé de faire ça et comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Et mon autre question, elle porte du coup sur l'autre versant, sur le positionnement à la fois subjectif et objectif en France. Alors, je ne sais pas si c'est un choix de présentation ou si c'est vraiment absent de vos entretiens, mais est-ce que vos enquêtés se comparent avec les classes moyennes et supérieures en France? Comment est-ce qu'ils s'y comparent? Donc, ils ont quand même, du coup, là, pour le coup, il y a un effet de la politique migratoire française bénéficier, entre guillemets, d'un statut valorisant de migrants qualifiés. Hein, donc, vous citez les différentes formes parmi lesquelles, les formats administrative à travers lesquelles ils se stabilisent en France. Et donc, comment est-ce que ça rentre en compte dans leur propre auto-positionnement en France par rapport aux classes moyennes et supérieures françaises? Alors, concernant la communication de Hugo Bréhan, qui répond à bien des égards, enfin qui prolonge à bien des égards la conférence introductive de Jennifer Bidet. Là, on voit l'intérêt de prendre en compte les trajectoires sociales et les mobilités à la fois dans le pays d'émigration et dans le pays d'origine. Enfin, j'étais vraiment intéressée et convaincue par ce que vous dites des situations de décalage entre des formes de déclassement ou d'immobilité dans l'émigration accompagnées par des formes d'ascension dans le pays d'origine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez que c'est pas une ascension individuelle, mais qu'elle prend sens que à travers le groupe familial, ou enfin, on va dire ça pour faire vite, mais en tout cas à travers un groupe qui va à travers différentes manières bénéficier ou se transformer du fait du départ d'un ou de plusieurs de ses membres. Alors, je voulais revenir sur deux points qui me paraissaient pas forcément totalement clairs dans la présentation. Le premier, c'est vous dites, je crois, en introduction de votre texte, l'émigration peut être pensée comme un moyen de s'affranchir des frontières sociales. On le voit un petit peu dans le texte, mais c'est pas forcément aussi clair que ça. Mais donc, vous citez quelques pratiques qui peuvent paraître comme des pratiques transgressives ou d'émancipation ou de franchissement de frontières de classe, notamment dans les pratiques de loisirs pendant les vacances des émigrés. Justement, on va retrouver cette thématique là. Mais jusqu'à quel point est-ce que c'est des franchissements vers le haut? Quel regard portent sur eux justement leurs proches ou les élites locales? Est-ce qu'il y a d'autres pratiques que vous avez observées et qui sont un peu des indices de ces franchissements? Et mon autre question, elle est plus large, mais par mes connaissances de l'ensemble de votre travail, du coup, ça m'a manqué pour lire le texte. Qu'est-ce qui se joue dans la comparaison entre le Togo et les Comores? Là, pour le coup, plus précisément, qu'est-ce qui va faire la différence en termes d'encadrement étatique de ces migrations, qu'il s'agisse de l'État togolais ou comorien, ou de la manière dont la France gère ses relations avec ses États et encadre les migrations des ressortissants de ces deux pays? On devine que c'est très important. Par exemple, vous mentionnez des bourses pour ceux qui migrent dans le cadre scolaire, qui disparaissent, ça a des effets importants. Mais est-ce que vous pourriez revenir un peu plus systématiquement sur ces dimensions plus étatiques du cadre migratoire? Alors, l'intervention de Garance Clément, elle est à la fois très différente, puisqu'on se situe à une échelle intra-européenne, dans des petites mobilités, et en même temps, elle a pas mal de points communs avec les autres, puisque là aussi, on va retrouver les deux grandes questions que j'ai annoncées au départ. Ce qui me semble original dans votre démarche, c'est de vous centrer sur des formes de mobilité transfrontalière qui sont moins connues que celles plus connues des résidents français qui iraient travailler au Luxembourg ou en Suisse ou dans d'autres pays où les rémunérations sont plus élevées. Là, on a affaire à un cas de figure original. Je ne sais pas s'il existe dans d'autres cadres transfrontaliers en Europe. Alors, ce qui m'a frappé là, c'est l'importance, alors qu'a priori, on pourrait penser que là, dans ce cas-là, elle serait moins forte, de la renationalisation, ce que vous appelez la renationalisation des identités sociales, et même d'une certaine manière des modes de vie pour certains, puisque ces personnes que vous avez rencontrées, hein, ces migrants transfrontaliers, se retrouvent très fortement assignés à leur identité nationale dans un contexte apparemment socialement relativement proche, avec des distances très petites. Et alors, ce qui me semble intéressant, c'est, vous l'évoquez, mais j'aimerais que vous reveniez dessus, c'est le poids justement des enjeux administratifs dans cette renationalisation. Donc là aussi, c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on pourrait penser qu'ils sont moins forts qu'ailleurs, mais là, ils apparaissent très forts. Donc vous parlez des enjeux fiscaux, un peu de la protection sociale. Alors, qu'est-ce qu'il en est d'autres dimensions? Moi, j'ai pensé à la question du vote, mais aussi à la question de la scolarisation des enfants, qui n'est pas du tout évoquée dans votre communication, si vous pouviez l'évoquer. Et deuxième point aussi, qui je trouve étonnant, que dans ces espaces assez proches, ces personnes soient renvoyées à cette identité de Français. On a l'impression que les liens avec les classes moyennes et supérieures, à capital culturel, on va dire, pour faire vite, de Belges de ces espaces-là, sont quasiment inexistants. Donc, est-ce que vous pourriez l'expliquer? Parce que c'est assez difficile à comprendre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, dans les pratiques de loisirs, de voisinage, autour des écoles, justement, des liens qui se nouent, qui pourraient atténuer cette distance un peu sociale, mais surtout nationale, comme vous le montrez? Et donc j'en viens à la dernière présentation, où là aussi, même si le cadre est très différent, je trouve qu'on retrouve des questions et des approches relativement similaires. Donc moi, j'ai été très intéressée et très convaincue par votre démonstration, là aussi un peu contre-intuitive pour qui ne connaît pas ce type de migration, et aussi du fait du point de vue ethnocentrique qu'on a souvent sur les pays des migrations. J'ai été convaincue par la démonstration suivant laquelle, pour lutter contre des formes de déclassement et aussi pour socialiser à un statut social élevé, on peut choisir d'envoyer ou de laisser les enfants dans le pays d'origine. Donc je trouve que la démonstration est vraiment intéressante et convaincante. Enfin, ça, on pourrait imaginer des comparaisons avec des choses très très différentes à partir de cette démonstration. C'est vraiment la question de la transmission de ressources culturelles et statutaires, hein, qui peut difficilement se faire dans les migrations et qui donc ne peut se faire que dans le pays d'origine. Donc du coup là, enfin, ça appelle plein de questions, mais j'en retiens deux. Qu'est-ce que vous avez pu observer en pratique pour les enfants qui sont donc élevés par des proches à Dakar, scolarisés dans le privé, dans des bonnes écoles? Comment se passe cette socialisation? Est-ce qu'elle fonctionne, hein, sur le plan scolaire, sur le plan social, puisque certains sont relativement grands quand même au moment où vous faites votre enquête? Et comment se font les comparaisons au sein de la fratrie, puisque certains sont en Italie, d'autres sont au Sénégal, il y a des mobilités entre eux? Donc est-ce que ça fait partie de votre étude? Ça me semble vraiment passionnant comme entrée. Et l'autre question, c'est une question à la fois d'information et parce que c'est aussi très intéressant dans votre papier. Donc vous montrez vous avez rencontré des personnes qui, pour des raisons qui m'échappent mais sûrement qui sont bien connues, au début des années 2000 ou au cours des années 2000, vont aller vers l'Italie plutôt qu'ailleurs. Enfin, vous avez aussi enquêté sur les États-Unis, mais en tout cas pour l'échelle européenne, ils n'iront pas en France, pour des raisons sûrement liées à la politique migratoire française ou d'autres aspects, mais c'est pas le but de ma question. Ce qui m'a intéressé, c'est les comparaisons que font ces migrants entre les possibles de l'émigration et les hiérarchies qui sont faites, là en l'occurrence entre la France et l'Italie. Donc vous insistez beaucoup sur la question de la langue et du prestige de la langue, et surtout sa rentabilité au Sénégal, hein. C'est l'italien, ça sert à rien au Sénégal, alors que le français, si. Quels sont les autres termes de la comparaison qui rentrent en compte dans les pays possibles d'émigration en termes de conditions de vie, de scolarité? Enfin, ça me semble être aussi un élément très intéressant. Voilà, je m'arrête là.
Merci. Merci. Alors, je propose quand même que vous répondiez, mais de façon très simple, enfin, en choisissant peut-être une des questions sur laquelle vous venez intervenir, et puis ensuite on...
Merci aussi pour les questions et remarques qui me font réfléchir depuis tout à l'heure, puis qui vont continuer à me faire réfléchir. Je fais une réponse courte. Deux réponses courtes plutôt. Alors moi, quand j'écris s'affranchir des frontières sociales, effectivement, il y a un côté un peu flou dans la formulation. Je le voyais plus comme ce que disait Jennifer tout à l'heure, un surclassement, aller vers le haut de l'espace social. Ça peut aussi être entendu comme effectivement une rupture familiale et les pratiques transgressives. Les pratiques transgressives, elles peuvent se faire. Il y a plein d'exemples. Effectivement, ça peut être la question des loisirs, aller dans des lieux que les autres membres de la famille ne fréquentent pas. Ça peut être s'habiller autrement que ce que voudraient les proches. Ça peut être vivre ailleurs, ne plus, par exemple, vivre dans la maison familiale, mais aller se construire une maison à l'écart. Ça peut être choisir de partir en vacances ailleurs et pas retourner à chaque fois dans le pays d'origine. Ça peut être aussi choisir de revenir s'installer, qui est la plus grosse transgression dans les milieux populaires, finalement, de rompre le pacte de départ et de dire finalement, bah non, moi je vais quand même rentrer. Ça tient tant qu'il y a un équilibre. C'est-à-dire qu'on peut se permettre une transgression tant que, de l'autre côté, il y a des réparations vis-à-vis du rôle attendu par les proches. J'avais en tête l'exemple d'un émigré qui est un émigré comorien qui vit à Mayotte. À chaque retour, voilà, il se permet des choses, il s'autorise, par exemple, à aller en boîte de nuit. C'est le premier à aller faire ça dans sa famille, mais ça ne tient que parce que ses proches ont conscience qu'il revient constamment. Dès qu'il y a un mariage, dès qu'il, à chaque fois qu'il revient, il participe aux travaux de la maison. Enfin bref, il participe aux attentes familiales. Après, il y a pas mal de cas où justement ces transgressions, elles vont trop loin et où il y a eu des ruptures des liens familiaux. J'ai eu pas mal d'exemples de crises familiales et de ruptures totales où les émigrés là décident carrément de ne plus vivre et de ne plus fréquenter leurs proches. Deuxième question sur la comparaison Comore-Togo. Moi, l'objectif de départ, c'était pas. J'ai choisi ces deux pays justement parce qu'ils étaient a priori très contrastés au regard de la mobilité sociale, avec deux caricatures un peu, si on veut, deux oppositions schématiques entre ces deux migrations. Togo, qui est considéré comme une migration très élitiste, très diplômée, très intégrée en France, une migration qui pose pas problème d'après les acteurs institutionnels français. Et puis de l'autre, les migrants comoriens qui sont jugés aussi plus musulmans, communautaires, pauvres, qui auraient des trajectoires qui posent problème à l'État français, en tout cas. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer que justement, ce qui est plus intéressant, c'est pas les variations nationales, c'est les variations en termes de profil sociologique des migrants, et que finalement, les expériences, on les retrouve dans les deux cas. Après, pour ce qui est juste de la question de l'encadrement par les États d'origine, le Togo, effectivement, au départ, s'est pas beaucoup intéressé à la question migratoire, mais simplement a soutenu la migration étudiante. Ça s'est arrêté d'abord parce que, et ça s'est arrêté en même temps que les bourses de la coopération française par les politiques d'ajustement structurel. Ça s'est aussi arrêté parce que le général Yadema politisait la question migratoire et considérait que tous ces émigrés étaient forcément des opposants politiques. Donc il y a eu un abandon des politiques, sauf pour les profils les plus élitistes qui sont aujourd'hui de plus en plus encouragés à revenir. Donc finalement, la gestion de cette émigration, elle se fait surtout par la France. Et là, ça pose un peu moins de problèmes dans les consulats parce qu'il y a justement ces représentations positives sur les migrants togolais. Aux Comores, l'État comorien, déjà la décolonisation était plus tardive, donc en 1975, donc, ce qui a permis une circulation quand même assez forte dans l'océan Indien et qui a continué à être facilité depuis. L'État comorien facilitait les départs vers Madagascar, vers la Réunion, vers Mayotte. Ça s'est progressivement arrêté, et puis surtout les migrants populaires eux-mêmes ont tellement dévalorisé ces destinations qu'ils ont plutôt choisi la France, et c'est là aussi du coup le pays d'accueil qui est maintenant chargé de filtrer ces départs avec toutes les suspicions consulaires. Et le seul point qui aujourd'hui intéresse l'État comorien, c'est pas forcément le départ, c'est la captation des envois de fonds par les émigrés. Donc, voilà.
Merci beaucoup pour vos remarques et questions. Je vais me concentrer sur la première. Donc effectivement, c'était une surprise pour moi aussi de voir le poids des enjeux administratifs et migratoires dans ce contexte. Et je pense que la place que ça a pris dans les entretiens est liée aussi à la surprise que ça a représenté pour les enquêtés eux-mêmes, qui s'imaginent en habitant dans un espace proche du pays voisin et dans l'Union européenne que déménager de l'autre côté de la frontière, ça revient à déménager dans la ville voisine, et qui se découvrent immigrés en arrivant, en fait, et notamment par le passage d'un agent de quartier qui va leur rappeler qu'ils doivent se présenter à l'administration locale, s'enregistrer comme résident étranger, se faire une carte de résident. Il y en a plein qui plaisantent sur le fait qu'ils ont une carte verte et qui, du coup, tournent en dérision leur position d'immigrés, à moitié immigrés dans ce contexte intra-européen. Donc je pense que c'est, voilà, c'est pour ça que ça prend cette place. C'est très important en termes de fiscalité et en termes de protection sociale. Sur la politisation de leur vie une fois résident en Belgique, c'est pas un enjeu pour les personnes que j'ai rencontrées. En tout cas, c'est l'investissement de la vie politique locale ou nationale belge n'est pas un enjeu, et la question européenne n'est pas un enjeu politique non plus, sauf quand il s'agit du coup de pointer l'espèce de piège dans lequel ils sont tombés, puisqu'ils s'imaginaient que la libre circulation dans l'espace Schengen valait aussi pour la libre installation. Et donc c'est surtout à ce niveau-là que la question du vote intervient. Et j'ai pas noté de stratégie scolaire particulière en Belgique, à l'exception des personnes qui arrivent aussi pour scolariser leurs enfants dans des structures spécialisées, parce que ce sont des enfants qui ont des difficultés psychomotrice particulière, et qu'il y a beaucoup d'établissements spécialisés en Belgique. Mais autrement, comme ce sont surtout des ménages qui arrivent avec des jeunes enfants ou des enfants déjà adultes, la scolarisation se fait dans les petites classes en Belgique, et la Belgique bénéficie d'une bonne réputation scolaire de manière générale, avec des classes plus moins nombreuses et un encadrement disons associé à la qualité du privé pour ces ménages, tout en étant gratuit. Donc finalement, ça, c'est un effet d'aubaine plus qu'une stratégie scolaire de découvrir cette offre en Belgique. Voilà.
Merci. Alors, merci beaucoup pour ces questions. Je vais répondre assez rapidement. Alors, je vais commencer par, si c'était la première, comment se passe la socialisation familiale et scolaire? Donc j'ai parlé du français tout à l'heure, mais le but aussi de grandir auprès de la famille plus large au Sénégal, c'est aussi d'apprendre la langue, d'apprendre la famille. Et au niveau de la socialisation dans la famille et dans le quartier, les enfants sénégalais qui grandissent en Italie sont vus comme des enfants qui sont enfermés, qui sont isolés, qui sont presque coincés devant la télévision avec seulement leur père et leur mère à la maison. Alors que, par contraste, Yoff, c'est un quartier, c'est un quartier historique de Dakar aussi. Donc c'est vraiment tout un réseau de parenté très très resserré, que des familles propriétaires où vraiment tout le monde se connaît. Donc on défend beaucoup l'ambiance qu'il y a à Yoff, les rapports avec les voisins et la liberté qu'ont les enfants de circuler. Donc ils circulent à partir de 4-5 ans, ils circulent par groupe de pères dans le voisinage. J'ai dit que j'étais rentrée par les écoles privées, donc les enfants avaient moins de 10 ans, mais la plupart du temps les aînés avaient même plutôt 6-7 ans, ce qui fait que quand ils étaient arrivés depuis 2-3 ans en Italie, les aînés, finalement ils étaient partis à 3 ans, ils connaissaient déjà les tantes maternelles et les grand-mères maternelles, avaient gardé un contact presque quotidien par téléphone et par Skype. Et pour les plus jeunes qui étaient nés en Italie, quand ils sont arrivés, ils étaient jeunes et ils se sont habitués assez rapidement. Et puis après, pour les maisonnées en continuité comme celle de Sornassam, finalement, l'adaptation des enfants en Italie est toujours présentée comme d'une grande facilité, se faisant dans une grande harmonie, etc. Par rapport à la socialisation scolaire, c'est un peu plus compliqué parce que, contrairement aux États-Unis où les enfants ont la nationalité à la naissance et où donc ils partent pour un certain nombre d'années au Sénégal sans revenir, en Italie ils sont obligés de faire des allers-retours tous les 2 ans pour les papiers. Le renouvellement du permis de séjour, ça peut prendre 6 mois, voire un peu plus. Donc du coup, ils sont amenés à être scolarisés en italien entre deux. Et du coup, là, ça peut créer vraiment des ruptures scolaires parce que les parents comprennent pas qu'ils s'en sortent pas, sauf que c'est des enfants qui sont de langue maternelle wolof, qui sont scolarisés un coup en français, un coup en italien. Donc voilà, sur ces trajectoires-là, c'est pas toujours dit que ça donne des choses, que ça donne de l'excellence scolaire par la suite. Et ensuite, sur les hiérarchisations qui sont faites entre les pays de destination, par exemple, le mari de Sorna, il a son frère aîné qui est aux États-Unis. Donc il y a quand même beaucoup de comparaisons entre les groupes de YoFoi qui sont aux États-Unis, en Italie et en Espagne. L'Italie et l'Espagne sont considérées à peu près avec d'un même intérêt, mais les États-Unis sont vraiment vus comme un territoire d'aubaine où il y a le plein emploi, où les émigrés sénégalais aux États-Unis sont vus aussi comme étant coincés aux États-Unis, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sans papier et qui donc du coup reviennent jamais au Sénégal pendant un certain nombre d'années. Il parle des États-Unis comme une prison à ciel ouvert, mais par contre, ce qu'on voit des émigrés sénégalais aux États-Unis au Sénégal, c'est la construction d'immeubles à étages, le fait de prendre en charge largement leur maisonnée, et donc une mobilité sociale de la maisonnée au Sénégal qui est rendue très visible, alors que les immigrants en Italie ont beaucoup plus de mal à faire des investissements économiques au Sénégal. Et ensuite, pour terminer, par rapport à la France, les Sénégalais que j'ai rencontrés en Italie avaient vraiment envie de pouvoir s'installer en France par la suite pour pouvoir réunir leur famille et leurs enfants avec la scolarité en français. Donc toujours avec l'idée que confier ses enfants, c'est une possibilité, mais c'est pas forcément uniformément partagé par tous les milieux sociaux. Il y a quand même toujours l'idéal d'avoir la famille rassemblée, de voir grandir ses enfants qui est toujours présent. Voilà.